Ces prophéties-là, c'est un style littéraire. C'est ce qu'on appelle le style apocalyptique, qui a donné le mot d'Apocalypse. Bon, en plus, l'Apocalypse n'est pas forcément quelque chose de catastrophique, ça veut dire la révélation. Si c'est la révélation qui nous arrive, c'est pas une catastrophe, c'est la révélation de Dieu. Et les étoiles qui tombent, le tonnerre, c'est l'expression écrite, verbale, ou l'expression verbale, l'expression de l'immensité, de la puissance divine. Tout craque, tout claque, tout est bouleversé, tout ça. Et c'est ça qu'il faut voir. Mais c'est pas forcément que historiquement, il va y avoir des guerres, des invasions, des épidémies. Ben ça, on le sait que ça va arriver de toute manière. C'est la loi de la puissance du mal, du malin dans le monde. C'est pas ça qui est annoncé. Ce qui est annoncé, c'est que cette terre, ce monde, ce cosmos dans lequel on est, ou tout du moins la forme physico-psychique du monde, de toute manière, un jour ou l'autre, sera balayée. Au profit d'un autre monde, d'un autre mode de vie, spirituel, si appelez le spirituel, si vous voulez, d'un autre mode d'existence qui existe bien réellement, auquel on participe déjà aujourd'hui, mais qui est d'un tout autre ordre, et ça qui est éternel, qui est l'ordre de Dieu. Déjà dans un petit moment, dans un bref délai, le soleil va exploser jusqu'à s'agrandir, jusqu'à dépasser Saturne, quelque chose comme ça. Tout ça va être englobé dans le soleil, ça va faire une naine blanche. Donc on va cramer. La Terre va fondre, va être réunie au Soleil. Bon, ça, c'est dans plusieurs dizaines de milliards d'années. D'accord, mais enfin, c'est quand même un bref moment. Donc, un jour ou l'autre, si on peut dire, un jour ou l'autre, ce monde-là va disparaître. Bon, ça, c'est que pour le système solaire. Les autres systèmes mettront encore un petit peu plus de temps. Mais un jour, tout ça pètera et s'arrêtera. Mais il y a un autre mode d'existence qui, lui, est éternel, et qui n'est pas la pensée, qui n'est pas la conscience en elle-même, qui est vraiment de l'existence même, mais complètement immatérielle, si vous voulez. Complètement immatérielle et complètement apsychique, sans psychisme. La pensée est immatérielle, si vous voulez, mais c'est même pas d'ordre de la pensée, c'est pas d'ordre de la conscience, c'est d'un Et que c'est ça, le but de notre vie à tous, croyants ou pas croyants, c'est de fait, même si ce n'est pas reconnu, de fait, d'expérimenter déjà maintenant ce mode d'existence. Et ce mode d'existence, vous l'expérimentez dans votre foi, vous l'expérimentez dans votre prière, vous l'expérimentez dans l'amour, le véritable amour, je ne dis pas d'affection, mais le véritable amour pour les autres. Ah, on expérimente cette. Il faut pas confondre. Il faut pas dire que l'amour c'est Dieu. Il s'agit pas d'aimer pour croire qu'on a que l'on croit en Dieu. Par contre, Dieu est amour et Dieu est lumière, comme dit Saint Jean. C'est-à-dire que l'amour c'est pas Dieu, mais Dieu c'est l'amour en personne. C'est un amour vivant, un amour libre. C'est pas un amour, c'est l'amour libre. Mais l'amour selon Dieu, vous comprenez bien que c'est pas l'amour selon notre vie quotidienne, si je veux dire. Et regardez la vie du Christ et la vie des saints. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont vécu par amour. Par charité, pour préciser le terme. Le Christ y avait compassion de tous, à chaque instant. Il voyait quelqu'un, il avait compassion, pour ça, sa compassion qui guérissait la personne à travers ces miracles. Des miracles qui avaient valeur de signe en même temps, hein, tout ce qu'on sait, ça n'efface rien de tout ce qu'on dit. Mais... Et les saints, ils aussi par amour pour les autres. Notre conversion chrétienne, c'est de vivre par amour pour l'autre, de renoncer à ma volonté propre pour faire la volonté de l'autre. À commencer par la volonté de Dieu et après la volonté des autres. Donc c'est comme ça qu'on expérimente cet autre ordre, cet autre niveau d'existence. Je pense que des crises comme celle d'aujourd'hui peuvent nous aider, au moins pour notre génération, pour nos générations, pardon de vous insulter, arrête de te marrer, toi. Tu verras quand il sera, quand tu auras de la barbe au menton, du poil au menton. Dieu permet ce qui est utile de génération en génération pour ceux qui sont de cette génération-là. Ce qui nous arrive tout de suite, c'est bon pour nous. Je ne vous avais pas dit que c'était agréable, mais c'est bon pour nous. Mais à nous d'y faire face, à nous de le prendre, pas seulement comme une... Il y a une forme de calamité, si vous voulez, non. Il ne faut pas prendre ça comme une calamité, il faut prendre ça comme l'expression... De la bénédiction divine. Dieu nous permet ça. Et même si ce n'est pas lui qui l'envoie, Dieu permet ça. Rien de ce qui arrive n'est étranger à la volonté de Dieu.
D'accord.
Et l'accepter, c'est donc le porter avec patience, avec sourire, avec espoir, avec joie, enfin, je ne sais pas comment vous dire, avec action de grâce. On n'est pas désincarné. Si vous avez un être cher, fragile, puisqu'il a passé 70 ans, qui meurt, vous pouvez avoir une peine physique, pas physique, mais psychologique. Ça, c'est normal, affective. Et ça, c'est pas du manque de foi. Mais derrière ça, au-delà de ça, plus profondément que ça, vous pouvez vous réjouir de ce que la personne est arrivée dans le royaume des cieux, qu'elle avait achevé sa carrière, qu'elle est présente encore parmi vous, et puis d'attendre votre tour aussi. Et c'est ça l'action de grâce. Si on vous découpe en lanières, comme ça, qui c'était aujourd'hui, Saint Basile Nancy, si on vous découpe en lanières, en lambeaux de peau, ça ne sera pas forcément une variété de plaisir. On peut dire encore, j'aime ça. Mais vous pouvez en plus d'écrit que vous avez légitime, parce que ça vous fait mal, vous pouvez le prendre et l'offrir à Dieu, hein, l'accepter par amour pour Dieu. Dans le Seigneur, Verbe incarné, n'a rien, dans sa vie, n'a rien fait par hasard. Rien. Et ce que nous appelons, par exemple, ce que nous appelons couramment des symboles, c'est de notre vocabulaire déchu, on appelle ça comme ça. On pourrait appeler ça des sacrements, des mystères, plus profondément. Le Seigneur a pris les éléments du cosmos qu'il avait créé. Il avait créé le cosmos pour que ce soit un signe pour l'homme. Un signe de sa présence, un signe de son amour pour les hommes. Et l'homme devait se nourrir du cosmos. Se nourrir pour devenir spirituel, pour arriver à se nourrir, pas simplement pour survivre avant que la mort n'existe, mais pour arriver à la perfection de sa ressemblance avec, avec Dieu. Et là, quand il s'est incarné, il a volontairement utilisé tous les éléments du cosmos pour exprimer, pour montrer le sens des choses, pour montrer pour transfigurer ce monde et lui redonner à ce monde sa valeur de signe, sa valeur de vie. Et par exemple, ce n'est pas un hasard si le Seigneur s'est incarné historiquement à une période où les Romains avaient envahi Israël, à une période où les Romains crucifiaient assez allègrement, etc. Ce n'est pas un hasard si le Christ est mort sur la croix, crucifié, et non pas abattu d'une balle, d'un coup de glaive ou empalé, enfin, je ne sais pas quoi, quel autre, ou brûlé. Non. Dans la conscience divine, dans la pensée divine, le Christ est mort sur la croix, de manière à ce que la croix soit un signe pour l'homme. C'est pour ça qu'on adorait aujourd'hui la Sainte Croix. Seigneur, nous adorons ta Sainte Résurrection, nous adorons ta croix, évidemment, ta Sainte Résurrection. La croix en elle-même, c'est un morceau de bois. La tradition dit même que elle est faite de trois morceaux de bois différents, trois essences différentes. C'est autre chose. Parce que le sang de Dieu incarné a coulé sur la croix. La croix est arrosée, elle bénéficie des énergies, elle bénéficie de la quelque chose de la vie même, de ce qu'a vécu le Christ sur cette croix, donc sa mort et sa résurrection. Et en vénérant le bois de la croix, on s'associe à sa mort, à sa résurrection, c'est-à-dire on s'associe à la vie même du Christ. On se nourrit de son être et on s'accroît de son être et de sa divinité. Mais la forme de la croix elle-même est une forme transfigurée aussi. Pourquoi la croix? Et pourquoi pas la décollation? Il aurait suivi le martyr aussi. Il aurait pu sauver les hommes aussi. Mais d'une autre manière, avec la croix, cet arbre vertical ensuite, cruciforme, quatre branches, montre d'abord que si on est mort à cause d'un arbre, l'arbre du paradis auquel on n'aurait pas dû manger et auquel on a goûté, c'est aussi par un nouvel arbre qu'un autre Adam, un nouvel Adam, vient nous redonner la vie éternelle. Mais c'est aussi parce que cet objet de torture est vertical. Donc, quand le Christ est pendu sur cette croix, il est à la fois sur terre et à la fois au ciel. Il monte sur la croix, c'est le premier échelon, si je puis dire, qu'il fait monter dans le royaume des cieux, qui s'achève avec son ascension. Et nous-mêmes, quand nous adorons la croix et quand nous acceptons la croix, comme disait l'Évangile tout à l'heure, nous montons nous aussi sur la croix, nous montons nous aussi sur cet échelon, sur cet escabeau, sur cette échelle qui nous fait monter vers le royaume des cieux. Mais quand la croix qui a cette forme de quatre branches, non seulement il y a cette dimension verticale, mais il y a la dimension horizontale. C'est-à-dire que non seulement il y a un lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, entre l'éternité et la temporalité, mais il y a une extension de cela aux dimensions de tout l'univers. L'horizon montre l'extension. Quand le prêtre bénit les indons, il bénit la liturgie, il bénit comme ça, c'est-à-dire les saints dons qui sont là sont répandus aux quatre coins de l'univers. Scientifiquement, on pouvait dire, mais il y a des millions de coins. On peut faire la rose des vents. On peut... Mais c'est pas nécessaire. Les quatre. Voilà la raison pour laquelle le Christ est né est mort sur la croix, précisément. Et voilà pourquoi aussi on se signe à chaque instant du sceau de la croix. Parce que nous-mêmes, nous sommes associés au Christ, mort, et vous êtes encore vivant, pour l'instant, moi aussi. Quoique mort par un autre aspect. Mais justement, parce que je suis mort à cause de mon péché, je suis aussi debout parce que je suis ressuscité avec le Christ et je manifeste cette résurrection-là immédiatement par mon être même. Mon péché, quel qu'il soit, est une mort d'avec Dieu. Mais si je vis physiquement aujourd'hui, c'est parce que Dieu me fait vivre, parce qu'il me pardonne. S'il n'y avait que mon péché, j'aurais été séparé de Dieu, je serais mort. Mais je ne suis pas mort, si je suis encore vivant, c'est donc que je suis ressuscité. Et si je suis ressuscité, je suis debout. Comme le Christ, en portant sa croix, qui est aussi la mienne, je suis debout, les pieds sur terre, la tête au ciel, je suis un mort ressuscité. Je n'ai pas un mort ressuscitant, mais un mort déjà ressuscité. Et en faisant le signe de la croix, moi, je manifeste cette foi-là, je le réalise, je l'intériorise, je l'incarne. Et en l'incarnant, je le fais en faisant l'aspect horizontal de la croix, je réponds ça, je transfigure le monde, pas je, mais l'Esprit Saint, à travers moi, à chacun d'entre nous, répond cette réalité-là aux yeux du monde. Et c'est comme ça qu'on sauve le monde aussi. Ça nécessite aussi la charité, c'est tout ce que la conversion intérieure, etc. Mais je ne parle que d'un aspect, là, je ne parle que de l'aspect de la croix. Mais ceci est indispensable, pour ça qu'on multiplie autant les signes de croix. Et à certains moments précis de notre vie. Notre vie notre vie chrétienne est une danse, c'est une exaltation, c'est un chorodia, c'est une danse, c'est un ballet. Et dans ce ballet, chacun d'entre nous, en même temps, faisons la même chose, vivons la même réalité, exprimons, désirons, espérons, réalisons une chose qui nous est unique. Cette relation, cette union que Dieu fait avec nous. Et à cause de cela, dans ce ballet, alors que nous sommes unis par un mouvement unique, chacun de nous inscrit en lui-même, vit en lui-même cet unique ballet auquel on assiste. Plusieurs ont eu excusez-moi de la comparaison, c'est pas mon idéal, vous allez bien le comprendre, mais c'est pour vous montrer quelque chose. Certains ont assisté quelquefois à des danses, des tournoiements des derviches tourneurs. Et dans leur pratique, c'est une forme d'essayer de parvenir à une extase à travers un mouvement qui les associe au mouvement des astres. Donc, vous les voyez, je ne vais pas vous décrire ça, c'est un autre sujet, mais ils tournoient sur eux-mêmes et les uns et les autres tournent autour d'un cercle. Vous voyez. Donc, c'est un cercle, mais chacun fait ses propres cercles en même temps. Et ça, petit à petit, ça crée artificiellement, ça crée une transe, si vous voulez, qui est une extase, qui est un dépassement de soi-même, que d'autres trouvent d'une autre manière avec de la drogue ou toutes sortes d'autres. Toujours, il y a des méthodes très, très différentes. Eh bien, nous-mêmes, notre foi chrétienne, elle est associée à ça, mais transfigurée. C'est pas à travers un mouvement physique qu'on atteint une extase, c'est dans l'ézikia, dans la tranquillité, mais où on est tous ensemble, et pas tous ensemble simplement nous 15 qui sommes réunis tout de suite ici à Terrasson, mais aussi ceux qui sont dans les autres églises et partout dans le monde, qui vivons, qui dans l'ézikia, dans la tranquillité, dans le silence, l'absence de mouvement, l'absence de vie en quelque sorte, d'une certaine manière, expérimentons la même chose et tournoyons ensemble. Et ça s'exprime par notre jeûne, ça s'exprime par notre prière, ça s'exprime par nos signes de croix, ça s'exprime par nos méthanies, ça s'exprime par tout ce qui fait notre vie chrétienne. Si ce n'est pas fait par formalisme, encore que quelquefois il faille passer par le formalisme avant de parvenir à la conscience de ces choses-là, mais si on le fait pas par formalisme, c'est vraiment une élévation qui amène une forme d'extase, d'une extase sans mouvement. On est en soi, mais on sort de soi pour être en Dieu et en communion avec les autres. Et si on fait l'économie de ces signes-là, si on fait l'économie de la croix, si on fait l'économie du signe de la croix, on fait l'économie de tous les symboles qui sont dans le monde, on passe à côté de tout ça. On a à ce moment-là une morale, si vous voulez, on a une foi qui est d'ordre de la loi, de la pratique de la loi, comme sous l'Ancien Testament, plus subtil peut-être, mais c'est cet ordre-là, mais pas vraiment la participation au mystère de la gloire de Dieu. Si vous réfléchissez un peu, ça attrape le vertige. Quelles que soient nos limites individuelles, quelle que soit la déchéance de notre nature qui nous est commune, qui nous est plus individuelle, mais qui nous est personnelle, nous sommes amenés, non seulement comme les derviches, à être liés à tout le mouvement du cosmos, mais nous sommes conduits, nous sommes invités, nous sommes participants à la vie même de Dieu et de ce qui vit entre des relations qui entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Malgré notre indignité et la conscience de notre vie nous amène à faire désirer cette au-delà, cette autre dimension de notre existence. Et si on veut accéder à cette autre dimension de l'existence, il faut évidemment lâcher la première dimension qui nous alourdit. Pour ça, pour nous, la mort est un gain. La mort est enfin une ouverture, on nous enferme dans une boîte en bois, quelquefois plombée, pour enfin sortir de cette boîte et vivre dans la liberté qui nous avait été promise.